troisième annonce, nous allons commencer un débat, une présentation et un débat sur ce qu'est une exploitation familiale, agricole, dans un pays comme le Sénégal. Il y aura une première partie qui va parler de l'exploitation, et puis petit à petit, on passera alors à l'effort que font les paysans actuellement en Afrique de l'Ouest pour être respectés, pour petit à petit avoir un poids politique et tenter d'influencer les relations internationales. Alors mon ami à côté de moi s'appelle Ibrahima Niang, il est fonctionnaire du développement local au Sénégal, dans une région éloignée, et actuellement il fait un séjour d'études à Clermont-Ferrand, après une dizaine d'années dans la fonction publique, sur les questions d'analyse critique du développement. Et il a bien voulu choisir le GRAD, une petite association qui est à Bonneville, qui avait un stand là-bas aujourd'hui, qui existe depuis un certain nombre d'années, parce qu'il y a une trentaine d'années qu'on travaille, et il fait son stage actuellement au GRAD pour vulgariser ce qu'est la coopération, ce qu'est la solidarité. Et donc nous sommes devenus deux intimes, parce que Ibou habite à la maison, et donc pour 3 mois, on partage le temps et le travail. D'où je me suis dit, étant donné tout de même ma jeunesse, que c'était beaucoup plus intéressant pour vous d'écouter Ibou, et moi je n'interviendrai que par petites bribes.
Donc merci Bernard. Avant de commencer la conférence proprement dite, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces ateliers. Je pense que ce sont des occasions très importantes pour nous permettre, nous Africains et vous, peut-être Européens, particulièrement Français, de nous comprendre et d'échanger dans le cadre de la coopération internationale. Comme Bernard l'a dit, moi j'ai quitté seulement le Sénégal il y a 8 mois. J'étais à Clermont-Ferrand où j'ai fait ma première année de master. Actuellement, je suis en stage au GRAP. Et ce qui m'a vraiment impressionné, parce que lorsque j'étais en Afrique, je n'avais pas eu l'occasion de vérifier ça, c'est que les Français s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Ça, vraiment, c'est un plaisir. Et c'est un volet très important qui est développé actuellement dans notre école, le CIRDI, qui s'occupe du développement international. Et comme Bernard l'a dit aussi, je n'ai pas été déçu vraiment, parce que j'avais l'occasion de faire mon stage cette année en Afrique, ou bien dans les organismes internationaux comme le FNU aux États-Unis, ou bien la FAO à Rome. Mais j'ai préféré particulièrement travailler avec M. Lecomte, qui a une expérience très avérée dans le développement de l'Afrique. Il a travaillé pendant plus de 20 ans au Sénégal, particulièrement en Côte d'Ivoire, au Madagascar. Donc vraiment, je n'ai pas regretté, parce que chaque jour que je fais, j'apprends de nouvelles choses. Et ce qui est intéressant, tout ce qu'il me dit et tout ce que je trouve au GRAP, j'ai déjà vécu ça sur le terrain, parce que comme il l'a dit, j'ai travaillé pendant 7 ans et presque 8 ans dans le développement local au Sénégal, dans les régions les plus difficiles du Sénégal. Si des Sénégalais sont ici, ils vont, si tu leur parles de Tambacounda, ils vont savoir. Si tu leur parles du département de Podor, ils vont connaître. Si tu leur parles de la nouvelle région de Kédougou, la région qui est frontalière à la Guinée, aussi ils vont connaître. C'est une région dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. Et ce qui m'a valu une bourse pour venir en France perfectionner mes études. Donc ça, c'était une petite parenthèse. C'était une occasion de remercier vraiment Bernard, qui m'a permis d'avoir une seconde famille aujourd'hui en France. Je lui ai dit, même si je retourne en Afrique, j'aurai l'occasion de temps en temps de revenir en France, particulièrement à Bonneville, pour lui rendre visite et pour me ressourcer. Donc, pour ce qui concerne notre sujet, qui est l'exploitation familiale. Donc, pour parler de ce sujet, on peut essayer de le résumer. Parce que si on développe normalement ce sujet, ça pourrait nous prendre des heures et des heures. Et Bernard Coder, après, va vous le dire, il y a un spécialiste en matière d'exploitation familiale qui n'est pas là et qui a rédigé un livre qui s'appelle « Dieu n'est pas paysan » et qui serait mieux outillé que moi pour présenter ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une petite expérience, je peux vous en parler. Et Bernard va vous présenter ce livre que vous pouvez acheter au niveau du GRAC pour avoir des éléments beaucoup plus importants sur ce sujet. Donc, je vais faire seulement un résumé de 15 à 20 minutes et je vais l'organiser autour des points suivants. D'abord, je vais essayer un peu de développer ce qu'est l'exploitation familiale en Afrique, particulièrement au Sénégal, comment ça fonctionne, quels sont ses mécanismes, ça ce sera le premier point. Le deuxième point sera accès aux atouts de l'exploitation familiale. Quels sont les atouts? Donc après avoir défini le thème, on va un peu parcourir les atouts. Pourquoi l'exploitation familiale est toujours importante en Afrique, particulièrement au Sénégal? Et dans un troisième point, nous allons essayer un peu de parcourir les problèmes parce que ça existe. Quels sont les problèmes auxquels l'exploitation familiale est confrontée aujourd'hui et qui lui empêche un peu d'évoluer vers des sphères beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus importantes, beaucoup plus organisées? Et enfin, comme Bernard l'a dit, nous allons terminer par vous décrire un mouvement paysan, la genèse d'un mouvement paysan qui s'est développé en Afrique, particulièrement au Sénégal. Et le mouvement paysan, actuellement, ce mouvement-là dont on va vous parler, c'est un mouvement qui est écouté particulièrement par les politiques. Aujourd'hui, au Sénégal, l'État n'ose pas déterminer ou bien mettre en œuvre une politique de développement sans pour autant intégrer ou bien inviter ce mouvement paysan aux tables de réflexion. J'ai même vu le leader du mouvement paysan la dernière fois avec Bernard. Ils ont été invités à Genève et ils ont pu partager avec l'ensemble des ambassadeurs d'Afrique qui travaillent à Genève, qui sont accrédités à Genève et qui ont échangé dans le cadre du mouvement paysan. Donc, pour parler de l'exploitation familiale, d'abord, il faut dire qu'en Afrique, ceux qui ont l'occasion de vivre en Afrique le savent mieux que moi, l'idée de famille nucléaire n'existe pratiquement pas là-bas. Bien que ça commence de plus en plus à gagner de l'ampleur, surtout dans les villes. Mais ce qui se passe en Afrique, ce qu'on observe particulièrement, ce sont les familles dites élargies. Quand on parle de famille élargie, ici actuellement, moi avec mes camarades de classe, j'avais des problèmes parce que chaque fois qu'on me demandait où loge ta famille à Dakar, j'avais des problèmes pour répondre. Parce que moi, je ne considère pas la famille, entre guillemets, comme seulement ma femme, entre parenthèses, je suis marié et père de 3 enfants. Je ne considère pas ma famille seulement comme ma femme et mes 3 enfants. Quand on parle de famille en Afrique, ce sont les grands-parents, les parents, il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a tout ça. Et cette famille-là est très, 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 très élargie. Donc, on peut trouver dans une famille en Afrique, une grande famille, plus de 50 personnes, ce qui est inimaginable dans un pays comme la France. Et ce qui est important et ce qui est très important dans cette exploitation familiale, dans cette famille, c'est une famille très, très organisée. Et il y a un seul centre de décision. Peut-être les gens ne connaissent pas, mais ceux qui ont l'occasion de vivre dans les villages en Afrique, il y a un seul centre de décision et le centre de décision, le chef de ce centre de décision, c'est en quelque sorte la personne la plus âgée. Nous, on le dit souvent en Afrique, ce qui est important, quand tu viens en Europe, ce qui te marque, ce qui te... excusez-moi un peu du terme, c'est que les vieux sont un peu isolés par rapport au reste des autres personnes. Alors qu'en Afrique, c'est le contraire. On dit que la vieille personne a sa place dans la maison. Même si, parce qu'il peut arriver qu'on soit tellement vieux qu'on ne jouit plus de ses capacités. Même si c'est ça en Afrique, tu as toujours le pouvoir de décision. Et ce qui est important dans ça, la femme, même si son mari meurt, c'est la femme qui hérite un peu de ce centre de décision. Et c'est pourquoi parfois, Sissoko l'a dit dans son livre, et Bernard aussi l'a dit quelque part, on s'étonne quand on nous parle d'émancipation de la femme, parce que naturellement, cette émancipation existe en Afrique, parce que dans la plupart des familles, qui sont surtout dans le monde rural, ce sont les femmes qui sont les leaders, qui sont un peu les porte-parole de ces familles-là. Donc ça aussi, ça me paraît très important. Et au niveau de la famille, il y a ce qu'on appelle un conseil familial, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y a des litiges ou bien des problèmes ou bien des décisions à prendre par rapport à un événement, c'est le conseil qui se réunit sous l'autorité du leader familial pour donner sa décision. Et ce qui est important dans la famille aussi, chacun a sa tâche. Par exemple, si vous prenez une famille de 50 personnes, même 100 personnes, chacun sait du matin au soir quel est son rôle et quelles sont les différentes tâches qu'il doit accomplir pendant la journée. C'est une famille très très organisée, contrairement à ce que les gens pensent. Le concept de plein emploi, les gens qui sont des économistes ici peuvent savoir ce dont je parle. Le concept de plein emploi, tu vas les trouver même dans ces familles-là. Parce que tout le monde a son rôle à jouer à ces tâches qui sont déterminées au niveau de ces familles-là. Et ce qui est important aussi, c'est une grande famille. Mais où tu trouves au sein de la famille ce qu'on appelle des ménages. Par exemple, tu peux trouver dans une famille un grand-père qui est le chef de famille, mais il y a aussi les ménages, ce qu'on appelle les ménages. Ce sont les petites familles qu'on trouve en Europe. Donc il y a le cousin avec sa femme, l'oncle avec sa femme, le grand frère avec sa femme ou bien avec ses enfants. Donc c'est ce qu'on appelle les ménages ou bien les petites familles qui sont contenues dans la grande famille. Et ce qui est important, et ce qui est aussi très important dans ça, c'est que chaque ménage ou chaque carré prépare un tour de rôle pour toute la famille. Par exemple, aujourd'hui, si moi j'ai un carré au niveau de la grande famille, ma femme va préparer pour 2 ou 3 jours pour toute la famille et ça tourne. Donc il y a autant de familles, autant de ménages que de couples. Donc les gens vont se faire à tour de rôle. C'est ce qui fait qu'en Afrique actuellement, on commence à perdre les notions comme la solidarité, l'entraide. Parce que ces familles-là, qui sont regroupées autour de l'exploitation familiale, sont en train de disparaître. Et il y a aussi une chose très importante qui va nous mener un peu à l'exploitation familiale. Puisque les gens partagent leur repas ensemble, c'est ce qui fait que les gens travaillent autour de ce qu'on appelle de l'exploitation familiale. L'exploitation familiale, son rôle principal, c'est de trouver des moyens ensemble pour permettre à toute la famille, aussi grande qu'elle soit, pour se nourrir. Donc, la principale source de revenus, c'est bien entendu l'agriculture. Donc, il y a un grand champ, par exemple, de 5, 10 ou 20 hectares que la famille cultive en commun et c'est les récoltes qui sont issues de cette exploitation familiale qui seront utilisées une partie pour nourrir la famille, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation en Afrique, et une autre partie destinée à la vente pour faire face aux soutes, parce qu'il n'y a, pas seulement la nourriture, l'alimentation pour vivre. Il y a aussi les problèmes de santé, il y a les problèmes d'éducation, et la vente, l'argent qui sera issu de ces ventes va permettre à la famille de faire face à ces dépenses-là. Mais il y a aussi une chose très importante dans cette exploitation familiale, c'est que bien que les gens travaillent autour de l'exploitation familiale, mais la propriété privée n'est pas interdite. C'est-à-dire, dans une exploitation familiale, tu peux travailler pour la communauté, pour la famille toute entière, mais on n'empêche pas à une femme ou bien à un homme ou bien à un ménage de la grande famille d'avoir ses propres biens. Par exemple, tu vas dans une exploitation familiale, il y a des femmes qui ont un troupeau, qui ont des bêtes, et à chaque fois qu'elles ont des problèmes, elles vendent ces bêtes-là pour satisfaire leurs problèmes. Et ça, c'est le domaine privé, c'est différent du domaine de l'exploitation familiale. Donc, c'est ce qui montre, en plus de l'exploitation familiale, qui est un ensemble communautaire, il y a aussi des biens privés que les gens peuvent avoir en dehors de cette, parallèlement à cette exploitation familiale-là. Et une dernière chose pour un peu développer l'exploitation familiale, c'est la notion de terre. Les gens aussi qui ont l'habitude, les Africains qui sont là ne vont pas me démentir, la notion de terre est une notion très sacrée en Afrique. Il y a tellement de problèmes. Moi, j'ai vécu 7 ans dans le monde rural. Mais si tu vois les 70% des problèmes dans le monde rural, ce sont des problèmes qui découlent des terres. Parce qu'il y a des gens qui refusent de donner des terres à d'autres. Il y a des gens peut-être qui veulent des terres, mais qui veulent exploiter et avoir des ressources, mais non pas de terres. Et ça, parfois, il faut les gens critiquent. Les détenteurs de terre, mais quand on les critique parfois, c'est parce qu'on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants de cette philosophie qui tourne autour de la terre. La terre est sacrée. Et la personne qui a hérité la terre de ses parents est chargée de la transmettre aux générations futures. Donc toi, si tu ne fais pas ton travail, si tu ne fais pas tout pour conserver l'ensemble des superficies qui ont été léguées par les ancêtres, si tu ne fais pas ça tout pour les transmettre aux générations futures, c'est comme un manquement par rapport à la vision ancestrale, par rapport à la tradition. C'est la raison pour laquelle ce sont des notions, l'État a compris ça. Maintenant, l'État est en train de régler l'ensemble des problèmes de terre, bien sûr, en tenant compte de ces notions-là, en intégrant l'idée des populations, en intégrant les populations qui sont propriétaires terriens dans même la démarche et dans la résolution de ces problèmes-là. Et ça, c'était le premier point. Mais pour le deuxième point, je vais vous parler un peu de manière résumée des atouts de l'exploitation familiale. Quand on parle de l'exploitation familiale, il y a un premier atout. Bien que moi, j'ai lu tellement de documents, les gens critique l'exploitation familiale comme étant une structure qui ne diversifie pas. Ça, c'est pas vrai. Au niveau de l'exploitation familiale, il y a tellement de diversification. Parce que comme je vous l'ai dit, tout est centré au niveau du conseil de famille. Même avant l'hivernage, les gens se regroupent et discutent par rapport aux spéculations qui seront cultivées cette année. Si telle terre est pauvre, les gens vont se dire, donc cette année, il faut laisser cette terre en jachère et exploiter d'autres terres. Donc, la diversification, c'est d'abord, c'est même l'un des principes fondamentaux de l'exploitation familiale. Donc, il y a tellement de produits au niveau de l'exploitation familiale. On trouve, par exemple, dans une exploitation familiale, au moment des récoltes, parfois 5 à 6 produits qui sont différents. Donc, on ne peut pas parler de diversification. On ne peut pas parler de critiquer de l'exploitation familiale du fait qu'elle ne diversifie pas. Et à mon avis, l'un des atouts les plus importants, après Bernard va y revenir certainement, de l'exploitation familiale en Afrique, c'est sa, surtout au Sénégal, c'est sa capacité de résister au changement. Si moi j'ai travaillé dans le monde rural, j'ai regardé, il y a tellement de structures qui disparaissent en fonction de la conjoncture, en fonction aussi des problèmes structurels. Mais si vous prenez l'exploitation familiale, lui, je ne vous l'ai pas dit, il fait partie des premiers conseillers de Mamadou Dia, qui a travaillé avec Senghor et qui ont rédigé les textes sur l'exploitation familiale et sur le développement rural. D'accord. Et Bernard ne va pas me démentir, depuis lors, l'exploitation familiale existe. Il y a les phénomènes des coopératives qui ont disparu. J'ai vu dans le monde rural beaucoup de phénomènes, beaucoup d'agences, beaucoup de structures qui ont disparu. Mais l'exploitation familiale, sa force, c'est sa capacité de résister aux changements conjoncturels et structurels. Il y a les sécheresses qui se sont passées en Afrique. Il y a des problèmes, il y a des politiques structurelles comme l'ajustement structurel, excusez-moi de la répétition. Mais l'exploitation familiale, malgré toutes ces politiques, continue à résister et à faire des résultats jusqu'à présent. Par exemple, si vous prenez un agriculteur, un éleveur par exemple, l'éleveur qui pratiquait que de l'élevage, aujourd'hui a tendance à s'adapter et à faire de l'agro-silvopastoral. C'est-à-dire qu'il pratique en même temps l'agriculture et l'élevage. Et Ce qu'on parle actuellement dans le terrain de développement en Afrique, on parle plutôt de développement intégré. Si vous allez dans le monde rural, on parle de développement intégré parce qu'on trouve que l'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage, l'élevage ne peut pas aller sans l'agriculture et vice versa. Il y a d'autres produits qui sont issus de l'exploitation forestière qui amènent des revenus très importants aux populations et qui ne peuvent pas être dissociés de l'exploitation agricole. Et il y a aussi une chose très importante qu'on a observée, j'ai pu puiser ça à partir de documents que j'étais en train de lire au niveau du grain. Si vous prenez les récoltes, la production au niveau de l'exploitation familiale, depuis 1960, la production suit une évolution exponentielle. C'est-à-dire, depuis 1960, malgré tous les problèmes que le monde rural connaît, l'exploitation familiale fait toujours de bonnes récoltes. Et les récoltes sont meilleures chaque fois que l'on avance. D'une année à l'autre, les récoltes sont meilleures. Ça aussi, c'est une chose très importante. Et là, le dernier atout que je vais parler, parce qu'il y a beaucoup d'atouts par rapport à l'exploitation familiale, c'est que l'exploitation familiale en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'Africains ici, après, peut-être ils vont intervenir et peut-être apporter leurs idées par rapport à ça, c'est que l'exploitation familiale perpétue la tradition. Je vous ai dit tout de suite, en Afrique, sincèrement, je vous le dis, je suis africain, les notions comme la solidarité et l'entraide, ce sont des notions qui commencent à être réelles dans la vie de tous les jours. Parce que au fur et à mesure, en contact avec d'autres cultures, on perd un peu ces bonnes pratiques qu'on a héritées un peu de nos parents. Et ce qui est important au niveau de l'exploitation familiale, elle perpétue la tradition. N'est-ce pas? Il y a, par exemple, si vous allez particulièrement dans le département de Kédougou, je vous donne des exemples. Il y a des ethnies. Ce sont les ethnies qu'on appelle des ethnies minoritaires. Si vous allez actuellement au Sénégal, dans le département de Kédougou, il y a des ethnies qui ne s'habillent pas jusqu'à présent. Peut-être qu'ils s'habillent pour couvrir le sexe, mais la partie du haut, c'est toujours. Les gens marchent comme ça, ils vont dans les marches, ils évoluent comme ça. N'est-ce pas? Mais ce qui est important dans ça, au niveau de ces gens-là, si tu leur poses des questions par rapport à tout ça, tu vas comprendre pourquoi ils vivent comme ça. Et au niveau de ces familles-là, les gens qui s'aventuraient parfois à porter des habits, des boubous, ce sont des gens parfois qui sont répudiés, mais a priori, tu ne comprends pas. Mais dès que tu vis là-bas, tu fais des études, tu vis avec eux, finalement, tu vas comprendre pourquoi ils font tout ça. Et au niveau de... Par exemple, je vous donne, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Nicolas Hulot? On avait un programme à Kédougou, dans le département où je travaillais avant de venir en France, qui s'appelle Environnement et Développement Durable. C'est un programme qui a été financé par la fondation Nicolas Hulot. Et l'importance de ce programme-là, c'est que le programme se base sur l'aspect culturel, c'est-à-dire qu'il faut laisser les populations avec leur culture et à partir de ça, essayer de les amener un peu vers le développement. Donc, il ne faut pas faire un développement à l'européenne. L'Afrique a ses réalités. Donc, il faut prendre les populations comme elles sont, comme elles vivent, les comprendre dans leur propre milieu et les amener un peu au développement. Et c'était un programme de presque plus de 500 millions qu'on avait obtenu. Mais malheureusement, c'était un programme qui n'avait pas pu être exécuté du fait des politiques. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça, c'est le deuxième point. Par rapport au troisième point, l'avant-dernier point, je vais vous parler un peu des problèmes. Parce que sincèrement, il faut se dire la vérité. L'exploitation familiale a beaucoup d'atouts. Mais parallèlement, elle est confrontée à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, je vais vous identifier seulement les cinq majeurs. Les gens qui sont là, les Africains qui sont là aussi ne vous démentiront pas. Le premier problème auquel l'exploitation familiale est confrontée aujourd'hui en Afrique, c'est le problème des conditions climatiques. Si vous voyez aujourd'hui, le monde rural est en train de se dépeupler en Afrique. Ça me fait tellement mal. Parfois, tu vas dans un village, tu vois une exploitation familiale et tu interroges le chef de cette exploitation familiale, il te dit que il y a 5 ans, il y avait à peu près 40 à 50 personnes au niveau de cette exploitation. Mais aujourd'hui, on ne trouve que 10, une dizaine ou bien une vingtaine de personnes au niveau de cette exploitation. Quand tu leur poses la question de savoir pourquoi, c'est l'éternel problème. Il y a les problèmes de conditions climatiques, de maîtrise de l'eau en Afrique. Donc les gens, par exemple, dans la région où je travaille, au niveau des exploitations familiales, quand on récolte et qu'on vend une partie de la récolte, les récoltes ne permettent, l'autoconsommation ne permet de nourrir l'exploitation familiale que pendant 6 à 7 mois au maximum. Donc 6 à 7 mois au maximum. Donc il y aura 5 mois où les gens n'auront pas de quoi manger. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas parce que l'exploitation familiale ne fonctionne pas bien, mais ce sont des conditions qui ne sont pas maîtrisables, ce sont des conditions climatiques. Je vous dis aujourd'hui, si tous les moyens étaient mis à la disposition de ces populations-là, les gens n'auraient pas besoin de migrer ou bien d'aller dans les villes pour travailler. Et l'essentiel des forces de travail vont maintenant dans les villes, à Dakar, à Thiès, ou bien en Afrique, ou bien même en Europe. Et rarement sont ceux qui vont retourner au village. C'est ça le problème. Donc, l'exploitation familiale, c'est un des problèmes auxquels elle est confrontée actuellement. Il y a un autre problème auquel l'exploitation familiale est confrontée, c'est l'accès au crédit. Moi, j'ai travaillé un peu dans ça. Vous voyez, en Afrique, vous, en Europe, chaque fois que je discute avec des gens, vous avez la chance. Ici, il y a tellement d'argent. Un jour, même moi, au niveau de mon compte bancaire, chaque fois que je reçois des offres, on me demande, est-ce que vous avez besoin de crédit? Vous avez besoin de ceci? C'est contraire en Afrique. Aujourd'hui, en Europe, les banques courent derrière les hommes. Mais en Afrique, c'est le contraire. Ce sont les personnes, particulièrement les personnes du monde rural, qui courent derrière les banques. Moi, parfois, j'avais mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des exploitations familiales, des groupements au niveau des villages. Je suis sûr et certain, si on les finançait pendant 1 ou 2 ans, ils n'auront plus besoin d'aide. Mais le problème qui se pose, je suis en train de rédiger pour eux des projets pour trouver des financements. Mais je me dis que parfois, je rédige, et c'est seulement 5% ou 10% de ces demandes-là qui sont en fait satisfaites. Et ça me fait mal, quoi. Je suis obligé de rédiger pour leur remonter un peu le moral. Mais parfois, je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas trouver de financement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de garantie nécessaire pour pouvoir accéder à ces financements-là. Eux, ils n'ont pas de compte bancaire, en général, au niveau de l'exploitation familiale. Ils n'ont pas peut-être de garantie nécessaire pour que les banques leur prêtent de l'argent. Il y a même un système qu'on est en train de développer en Afrique, c'est la microfinance. Et même la microfinance n'arrive jusqu'à présent pas à résoudre ce problème-là. Donc ça, vraiment, c'est un problème. Et dans le cadre de la coopération internationale, je suis en train de voir, dans un ouvrage que je vais essayer de publier avec Bernard, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour faciliter l'accès au crédit à ces braves gens-là. Il y a aussi un problème très, très, très crucial. Je vous raconte une anecdote. Vous voyez des gens, par exemple, dans toujours l'une des zones où je travaille au Sénégal, Kédougou particulièrement, les gens qui connaissent Kédougou peut-être, ils vont peut-être me confirmer. C'est une zone très, très riche en arboriculture. Il y a tellement de mangues et de maté. Le maté, je ne sais pas comment on dit ça en français, Bernard. C'est un produit très, 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 très prisé. Mais le problème qui se pose, quand vous allez dans ces villages-là, au moment des récoltes, tu as mal, quoi. Tellement il y a de maté, tellement il y a de mangue. Mais le problème qui se pose, c'est que on a des problèmes d'écoulement. Les routes ne sont pas bonnes. Les gens, après la récolte, ont des problèmes pour écouler les produits. Finalement, ils vont dans les marchés hebdomadaires qu'on appelle l'Ouma pour bazarder les produits. Normalement, si tu devais vendre ça à 100 kg, à 100 francs le kilogramme, tu vas vendre ça à 50 francs ou 75 francs. Tu vas vendre ça à perte. Ça aussi, c'est un des problèmes de l'exploitation familiale auquel les gens sont en train de s'occuper pour un peu régler ça. Il y a aussi un dernier problème, peut-être c'est lié un peu au problème d'écoulement. que j'ai vu un peu aussi dans le livre de Sissoko, c'est la promotion des produits. Je vous donne un exemple. Les Guinéens ici vont peut-être me dire, il y a des Guinéens, il y a un produit. Moi, j'ai la chance de connaître le produit parce que j'ai travaillé à Tambacounda et à Kédougou, près de la Guinée. C'est un produit qu'on appelle le fognon. C'est une céréale. Mais quand j'ai des parents qui étaient à Dakar, avec mes parents qui étaient à Dakar, chaque fois je leur envoyais du fognon. Mais tellement ils appréciaient ce produit-là. Et c'est même mieux que le couscous marocain, je vous dis. Le couscous qu'on est en train un peu d'importer d'ailleurs. Mais malheureusement, au niveau même du Sénégal, si vous prenez les 14 régions maintenant, il n'y a que 3 régions qui connaissent ce produit-là. Donc il y a un problème de promotion au niveau national. C'est ce qu'on appelle peut-être le c'est un problème peut-être de... J'ai oublié un peu le terme en anglais. C'est ça qui manque un peu de lobbying. C'est un problème de lobbying qui s'oppose. Mais avec l'USAID, l'USAID a compris ça. L'USAID actuellement a créé un programme au niveau de la zone de Kédougou, Tambacounda, qui est en train de régler ce problème-là et de faire la vulgarisation de ce produit-là qu'on appelle le fognon. Ça, ce sont par exemple les 5 problèmes. Mais il y en a d'autres. Mais comme je vous l'ai dit, comme on n'a pas assez de temps, je vais m'arrêter un peu sur ces 5 problèmes-là. Et aussi le dernier point, avant peut-être de vous passer la parole et de passer la parole à Bernard, c'est la genèse du mouvement paysan. Ça, si vous préférez, on attend. Dans combien de secondes?
Je vais consommer déjà 2 fois le quart d'heure.
Oui, mais je peux.
Alors, je pense qu'il vaut mieux donner la parole au président qui est là. C'est là, si on a des questions à poser sur les
autres. Mais avant, si vous avez aussi, Bernard, des choses.
Bonjour. Bonjour. Visiblement, Bernard, je ne connais pas vos projets, vos machins, mais en tant que parler, je dois vous féliciter pour ce que vous avez entrepris et continuez à entreprendre. pardon. Je voulais juste faire une remarque concernant ce que dit le confrère là. Je suis tout à fait d'accord avec les exploitations familiales et j'y adhère pleinement. Et je pense qu'ici, à Sieu, à Touven ou à chacun y adhère parce qu'on est dans une région agriculturelle, si j'ose dire. Ma question toutefois est la suivante. Quand vous parlez, à juste titre, que les exploitations familiales continuent de produire plus alors qu'il y a moins de personnes d'un côté, je suis tout à fait d'accord. La raison, à mon sens, est simple, c'est que ceux qui ont la possibilité, comme vous, vous nous encouragez dans les exploitations familiales à produire des produits exportables, non manufacturés pour le peuple du continent. Je ne parle pas d'un seul pays en Afrique. Quelque part, vous faites de belles études, vous venez, vous allez, vous dites il faut faire ci, il faut faire ci. Par contre, dans une production familiale, on va cultiver, je ne serais-ce que le café, on est 100 personnes à cultiver le café, mais c'est un produit qui s'exporte. Ici, à Sierre, où nous sommes, les gens ont eu des fermes, je connais bien la région, et à côté de la ferme, il y a une école. Sur 2 enfants qui ont une famille, il y en a un qui va à l'école, qui apprend l'agriculture, et l'autre apprend quelque chose pour rester. Nous, en Afrique, aussi bien que je dois reconnaître vos produits, vos efforts, nous produisons pour exporter. Et au même moment, nos enfants, nos mamans, nos parents restent en l'état où ils étaient. Ils n'ont eu que la force de leurs bras et de leur cœur pour produire. Alors, si vraiment nous voulons vraiment parler de développement de l'Afrique, de développement familial et autres, je pense qu'il faudrait trouver quelque part une idée, sûrement que vous en avez, je pense que j'en aurai aussi, venir avec des moyens de trouver des produits qui peuvent aider un père de famille sur 5 enfants à pouvoir nourrir 2 et à pouvoir mettre 3 à l'école pour qu'ils puissent, parce que aussi, vous me prendrai pas rigueur là-dessus. Nous sommes dans un monde universel. L'un comme l'autre, nous avons besoin d'aller à l'école. Et Dieu merci, nous sommes en France, je dirais à l'école française. Donc, comment voulez-vous qu'un père de famille aide ses enfants à réussir, à se développer, et parallèlement, s'il doit produire que le produit exportable qui ne bat sa propre famille à vivre et aller à l'école? Merci. Ah bon, non, c'est Kaku, pardon, K-A-C-O-U. Prénom Adahi, A-D-A-H-I. Merci.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Parce qu'on aimerait avoir d'autres questions pour pouvoir entrer.
C'est simplement pour alimenter cette question-là de les cultures de rente et les... Chantal, cultures de rente et puis les cultures familiales. C'est vrai que je connais un peu plus le Niger ou dans des régions un petit peu de zones désertiques où j'ai vu dans certaines zones, on cultive l'ail et l'oignon qui vont être exportés. Alors que les campements, les populations locales n'ont pas suffisamment à manger elles-mêmes. Là, ça m'a posé vraiment des questions. Elles font, voilà, on demande l'aide alimentaire et en même temps, on ne produit pas soi-même le nécessaire pour manger, on produit pour d'autres.
Bonjour. La question c'est Albert. Et l'importation, par exemple, on va parler du poulet, est-il moins cher quand c'est importé que le poulet qui est là-bas sur place par les agriculteurs? C'est ça la question. Parce que j'en avais entendu parler il y a quelques mois de cela. Et j'avais halluciné et je voulais savoir si c'était vraiment vrai. Comme ce qui se passe ici avec les fraises d'Espagne, des choses comme ça.
Donc il n'y a pas d'autres questions. Bien, vous préférez qu'on réponde d'abord à ces questions. Bernard, je vous laisse la parole. D'accord. Donc, je voudrais d'abord remercier les trois intervenants, M. Kaku Adahi, Chantal et Albert. Et ça me fait très plaisir, vraiment. Ça montre que, un peu, bien que vous êtes là, vous intéressez toujours à notre terre d'origine. Mais je pense que je vraiment confirme ce que Kaku a dit. Parce que le problème qui se pose, on l'a dit. C'est que il y a un dilemme. On ne peut pas condamner ces gens d'émigrer ou bien de changer de milieu parce que sur place, ils ne trouvent pas les conditions nécessaires à leur survie. Je pense qu'il a parfaitement raison. On ne peut pas actuellement, comme je voulais raconter, dans la région où je travaillais, on ne peut se nourrir que 7 mois sur 12 avec les productions locales, comme il l'a dit. N'est-ce pas? Mais il y a une partie peut-être de l'exposé qu'on n'a pas tellement développé, c'est peut-être la faim avec le mouvement paysan. Et aussi il y a des politiques, parce que ça aussi, je ne suis pas trop entré dans les détails, il y a des politiques et des programmes au niveau des zones rurales actuellement dont l'objectif est essentiellement ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, ou même la sécurité alimentaire. Si vous voyez, dans la plupart des pays, surtout les pays sahéliens, l'objectif numéro un de l'agriculture, c'est de réussir à être autosuffisant sur le plan alimentaire. Et autosuffisance alimentaire, ça veut dire seulement cultiver ou bien produire quelque chose qui puisse nous permettre de nous nourrir sans pour autant demander de l'aide de l'État ou bien de l'extérieur. C'est ça l'autosuffisance alimentaire. Mais les politiques actuellement vont beaucoup plus loin. Il y a la terminologie de sécurité alimentaire. Parce que production ne signifie pas seulement être autonome. Je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous prenez le concept de l'autosuffisance alimentaire, comme Kakou l'a dit, la famille peut se nourrir avec sa propre production. Mais on a remarqué que en Afrique, il y a ce qu'on appelle, surtout dans les zones les plus reculées, ce qu'on appelle l'accessibilité physique. Il y a l'accessibilité physique. Tu peux avoir ton argent, même si tu n'as pas de production, tu peux gagner de l'argent ailleurs, et avec cet argent-là, tu peux accéder à de la nourriture en achetant de la nourriture. Mais le problème, c'est que pour accéder à la nourriture, il n'y a pas de marché organisé pour pouvoir acheter les céréales au prix qui sont homologués. Donc il y a un véritable problème d'enchère dans ce monde rural-là. Il y a un autre problème, même avec... Parce que comme il l'a dit, il a parfaitement raison. Le concept de sécurité alimentaire, même si l'exploitation familiale ne réussit pas à régler le problème de l'alimentation sur la base des récoltes, il y a d'autres moyens, comme les produits issus de l'immigration ou bien les produits issus du commerce, qui leur permettent, avec cet argent-là, d'acheter de la nourriture. C'est pourquoi maintenant, comme je vous l'ai dit, on ne parle plus de développement rural. Seulement, en Afrique, on parle de développement rural intégré. Il a parfaitement raison. Mais actuellement, dans le cadre des projets au développement, les gens tiennent compte de ça. Peut-être si je pouvais échanger avec lui, dans le cadre d'un partenariat futur, il y a des projets et programmes qui sont implantés aujourd'hui dans le monde rural et qui travaillent dans ce sens. L'État aussi est conscient de ça. Tous ces problèmes-là dont je vous ai parlé, l'État est conscient de ça. Et l'État est en train de mettre des politiques favorables pour un peu lutter contre ces problèmes-là. N'est-ce pas? Je pense que c'est la réponse que je voudrais apporter à Kokou. Et plus loin, pour répondre à Chantal, qui parle de culture de rente et de culture familiale. Je pense qu'elle a parfaitement raison. J'ai vécu personnellement ce problème. Dans la région de Tambacounda, nous, on avait des problèmes. Parce qu'il y a une culture très développée par une société qu'on appelle la Sodefitex. C'est la culture du coton. Le coton, c'est une culture de rente. Et les paysans avaient le choix de cultiver du coton, du mil, du fognon, c'est-à-dire d'autres céréales. Mais on avait remarqué chaque année, les superficies qui étaient cultivées pour le coton se réduisent, augmentent au détriment des superficies qui étaient allouées aux productions céréalières. On avait de sérieux problèmes parce que le paysan, ça malheureusement, c'est pas tout le monde quoi, c'est pas tous les paysans. Les gens ne regardent que le bien qui est, par exemple, qui est proche, qui est immédiat. Quand tu fais du coton, immédiatement la Sodefitex à la récolte vient te payer immédiatement le prix et tu as beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est la gestion de cet argent-là. Par exemple, si vous voyez, si vous prenez deux paysans, celui-ci fait le coton, fait de la diversification, il fait du coton et du mil, l'autre ne fait que du coton. Celui qui fait du coton, il gagne 500 000 ou 1 million après la récolte. Mais le problème, parfois, il n'a pas une capacité de gestion qui puisse lui permettre de garder cet argent jusqu'au prochain récolte. Alors que celui qui a fait de la diversification, qui culture, qui fait du coton, en même temps du mil, de la céréale, il prend de l'argent qui est issu du coton, qu'il va dépenser pour faire face aux autres secteurs, c'est-à-dire la santé et l'éducation et autres. Et en même temps, il a son grenier rempli, et à chaque fois, il peut puiser sur le grenier pour se nourrir. Donc on faisait des campagnes de sensibilisation, comme elle l'a dit, pour demander aux paysans, ne serait-ce que de ne pas abandonner complètement les cultures céréalières et de faire de la diversification. Même la Sodefitex qui était en train de travailler dans ce sens-là, nous appuyait un peu à faire cette sensibilisation. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc ça, c'est un point sur lequel les gens doivent encore travailler, et on est là-dessus dans le monde rural avec le concours de l'État. Et enfin, pour répondre à Albert, je pense qu'Albert a parfaitement raison. En Afrique, particulièrement au niveau du commerce, on a des problèmes. Peut-être on n'a pas voulu entrer trop dans les détails, dans le mouvement paysan. Le mouvement paysan est en train même de lutter contre la signature des APE. Parce qu'actuellement, les gens se produisent en Afrique, mais le problème qui se pose, les Africains, en général, préfèrent les produits qui sont issus de l'importation. Je vous donne le cas du Sénégal. Normalement, le Sénégal devait être autosuffisant parce que le Sénégal produit suffisamment du mil, du fognon et d'autres céréales pour lui permettre de vivre. Mais en bon Sénégalais, le Sénégalais préfère importer du riz de la Thaïlande ou bien de la Chine pour qu'il préfère aux productions locales pour vivre. Et comme il l'a dit ici, au niveau de ce qu'on appelle il y a un domaine qu'on appelle l'aviculture, il a parfaitement raison. C'est ceux qui font de l'élevage de volailles. Ils ont de sérieux problèmes avec la concurrence des produits qui viennent d'Europe. Parce que sur place, au Sénégal, tu vas dans les supermarchés, tu peux trouver un poulet à 1500 francs ou à 1000 francs. Alors que si tu achètes au niveau de la production locale, tu vas acheter ça à 2000 francs. Vous voyez? Donc, celui qui a son argent, lui, son problème, ce n'est pas le problème de citoyenneté ou bien de commerce. Ce qui l'importe, c'est d'acheter moins cher. N'est-ce pas? Donc, il préfère aller au supermarché, acheter les produits et faire un peu d'économie. Il a parfaitement raison. Mais c'est la raison pour laquelle l'État, parce que moi aussi, j'ai eu un peu la chance de travailler sur ça dans l'école où j'étais cette année. Il y a ce qu'on appelle les politiques régionales. Par exemple, si vous prenez Limoges, oui.
Justement, pour acheter ce poulet-là à 1500 francs CFA, oui. C'est l'État qui subventionne ça. Oh, c'est la France qui subventionne ça pour réduire ces 1000 euros. Enfin, ces 1000 francs CFA. C'est la France qui... Pourquoi pas subventionner directement ceux qui vendent le poulet à 2000 francs CFA?
C'est un peu, je pense qu'il a parfaitement, mais c'est un peu compliqué. Si on revient à ça, parce que cette année, on a été confronté à ce problème-là. Est-ce qu'il faut subventionner la production locale au niveau des pays africains? Parce que la France, il faut le dire, les pays européens, pourquoi ils ont réussi aujourd'hui l'agriculture, les États-Unis, l'Europe, ils ont subventionné leur agriculture. Mais ce qui est paradoxal, comme il l'a dit, ils interdisent aux pays africains de le faire. Mais le problème qui se pose, quand on subventionne, on a fait une étude au niveau du CERDI, quand vous subventionnez les produits, ça tue la production locale. Ça, ce sont des concepts un peu économiques. Peut-être l'État gagnerait à libéraliser, à laisser les productions locales comme elles sont. Mais si on arrive aujourd'hui dans les pays africains à subventionner les produits, on défavorise la production locale. Ça, c'est un concept. Mais malgré tout ça, comme il l'a dit, donc le seul moyen, la seule alternative, c'est de faire de la sensibilisation. Parce que les gens, derrière les concepts économiques, ils ne comprennent absolument rien. Mais il s'agit, surtout avec le mouvement paysan, dont Bernard peut-être n'a pas voulu que j'en parle, le mouvement paysan, on est en train de faire beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là. Donc, on préfère l'économie de son pays, c'est-à-dire il ne faut pas voir seulement son propre intérêt, il faut mettre au-delà les intérêts supérieurs de la nation. Parce qu'en subventionnant l'agriculture, bien en subventionnant les produits dont tu parles, l'État n'aurait pas assez de ressources, assez de recettes pour faire face à ces dépenses qui sont journalières et qui sont très importantes pour le développement, dans la marche de ce pays. Donc par rapport à ça, je ne sais pas, est-ce que tu es totalement satisfait. Bernard, si tu as...
Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous voulez qu'on continue. Hein? Vous dites. Mais je voudrais simplement ajouter quelque chose, c'est que pourquoi il y a des cultures d'exportation? C'est pour fournir de l'argent qui permet de payer, qui permet d'ouvrir des écoles. Donc il y a absolument besoin d'avoir des productions qui rapportent de l'argent. Donc les États ont intérêt à faire des cultures d'exportation, par exemple le coton. Et Ils le font d'une façon systématique, avec une politique qui est donc défavorable aux paysans. Et les paysans n'ont pas la force politique de s'y opposer. Donc actuellement, un des efforts de cet ami-là, qui a publié son livre, qu'il a fait en une dizaine d'années pour expliquer les efforts qu'ils font, et qui va venir faire une conférence à Annemasse le 18 juin, c'est de réunir les paysans pour qu'ils, en tant que force sociale, ils arrivent à faire modifier les politiques. Mais la politique, prenons un exemple pour le Sénégal, l'État sénégalais gagne de l'argent en important du riz, en important du blé, en pagaille, pour faire du pain. Et donc l'État sénégalais, il est complice de la destruction de son paysanat, parce que lui, ses recettes pour le faire fonctionner, c'est plus facile de faire les recettes à l'importation du riz ou à l'importation du blé que de faire des recettes sur la commercialisation du mil et du fonio. Le mil et le fonio ne rapportent pas un sou à l'État. Il n'y a pas de taxe sur le mil et le fonio. Alors l'État ne fixe pas les prix des produits agricoles locaux, donc ils varient uniquement suivant le climat. Suivant, ça a été bien cette année, ça marche très bien, les prix sont très bas. L'année suivante, ça marche très mal, les prix sont très hauts. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de stockage généralisé. Le seul endroit où il peut gagner son argent, c'est soit pour l'exportation des produits, comme le coton, soit à l'importation. Donc il y a un système, disons, de finances publiques, qui est un système qui est radicalement négatif pour les paysans. Changer ça, c'est beaucoup plus facile pour un syndicat urbain de faire une grève, d'aller dans les rues pour dire le pain est trop cher, qu'à un syndicat paysan de se réunir et dire maintenant on ne produit plus. C'est-à-dire que la force des urbains, dont il est, dont je suis, est beaucoup plus puissante que la force des ruraux pour modifier les politiques. Et donc là, il y a un effort considérable des ruraux pour arriver à exister et à se battre jusqu'à Bruxelles pour dire arrêtez cette histoire de poulet. Et il faut que l'État accepte de perdre des taxes à l'importation sur l'arrivée de poulets congelés pour permettre la production locale d'être plus chère, mais encore achetée par les gens. Parce que sinon, les consommateurs urbains, ils disent c'est très bien, on s'en fout de vos poulets bicyclettes, comme ils disent. Hein. Nous, on fait les poulets les moins chers qui soient, comme tous les... On est exactement pareil qu'ici, que là-bas, on va détruire notre capacité de production pour obtenir des produits chinois beaucoup moins chers que les autres. On va se battre pour augmenter notre pouvoir d'achat en tuant notre propre capacité d'acheter. Parce qu'on tue nos propres revenus. C'est exactement pareil en Afrique. Le leitmotiv, c'est il faut que le produit arrive le moins cher possible sur le marché des urbains. Et c'est ça qui affame les paysans, entre autres. Alors en dehors de ça, les paysans, mais il faut comprendre que un jeune paysan, dans son ménage, comme il a dit tout à l'heure, bah, il se dit, c'est bien gentil le champ collectif, c'est bien gentil d'avoir le grenier familial, etc. Mais moi, j'ai tout de même besoin d'un petit quelque chose en plus. Si je veux conserver mon épouse, si je veux faire la scolarisation de mes enfants, il faut que j'arrive à avoir un petit peu de revenu monétaire. Et donc, dès qu'il y a un petit peu de revenu monétaire, il tend à casser l'équilibre entre ce qui est autoconsommé et ce qui est monétaire. C'est pas du tout facile. Et la négociation au sein des familles, c'est un problème qui n'a pas été souligné parce qu'on n'a pas eu de temps, mais c'est un problème très difficile. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à environ une vingtaine d'années, c'était clair qu'il y avait une autorité des plus anciens. Maintenant, l'autorité des plus anciens, quand les anciens n'ont pas fait d'études, que les jeunes ont fait des études, qu'ils ont voyagé, qu'ils ont été en France, qu'ils sont revenus, etc., la négociation entre les groupes sociaux est difficile. Peut-être plus difficile encore qu'ici. Moi, je ne connais pas assez bien les problèmes de foncier en Haute-Savoie, mais ils ne sont pas faciles non plus. Quoi. Donc, il y a un problème de fond qui est comment un certain pouvoir paysan peut se développer pour modifier les politiques pour qu'elles en soient favorables. Et là, on peut effectivement, entre paysans d'ici, entre même mouvements d'ici et là-bas, travailler ces questions. C'est-à-dire, on sait que la bagarre à Bruxelles contre l'exportation des poulets, c'est une bagarre qu'on peut mener auprès de notre député. Un type comme le député, ici notre député, c'est un connaisseur des problèmes agricoles. Il s'occupe de Sadier, il s'occupe de ça au gouvernement. Donc faire pression sur Sadier pour dire attendez, si vous voulez protéger votre fameux Niger avec Tora et compagnie, faites attention aux lois qui sortent sur les exportations, il est ouvert à ça.
Quelle heure avez-vous, monsieur ? Il y a une autre. Vous voulez parler ?
Alors, je m'appelle Fabienne et je voulais rebondir un petit peu sur la réflexion de Albert. Par rapport au poulet, on sait aussi que bah, pays européens, on peut exporter vers l'Afrique des produits dans des conditions sanitaires, puisqu'il y avait eu un gros scandale notamment par rapport aux poulets contaminés, voilà quoi. Donc sans aucune conscience, on écoule nos stocks sur l'Afrique. Donc ça appauvrit la production locale évidemment. Et puis nous, bah, on fait encore du bénéfice en balançant des produits qui sont malsains. Bon, ça. Et puis aussi, c'est par rapport à l'importation-exportation, c'est une réaction en chaîne parce que, d'une façon très anecdotique, hier, je vais faire mon panier de ménagère et je constate que les fraises qui sont produites à Mont-en-Chablais sont vendues à la barquette 3 fois plus cher que l'ananas qui nous arrive de Côte d'Ivoire. Donc, de même que l'Africain va acheter un poulet à 150 francs CFA au lieu de 200, eh ben nous, on va peut-être acheter un ananas à 1,50 € au lieu de 3 € la barquette de fraises qui est produite dans le coin, quoi.
Parce que le producteur d'ananas va accepter de gagner 200 € par mois, là où vous ne trouverez aucun agriculteur ici dans Machilly qui va accepter moins de 10 fois ça.
Ouais.
Alors, pour revenir au poulet, il faut faire attention. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on exporte des poulets mauvais. On exporte des poulets congelés, qui sont les mêmes poulets que ceux qu'on mange dans notre supermarché à nous. C'est la même chose. Hein. La différence, c'est qu'arrivé là-bas, eh ben, ils quittent la chambre de congélation, ils ne se retrouvent pas dans les étals avec les moins les 5 degrés ou les 2, moins 2 à plus 5 degrés, ils sont très rapidement pourris. Mais au point de départ, on ne peut pas accuser l'Europe de dire vous envoyez des choses qui sont mauvaises. C'est arrivé là-bas que les conditions ne sont pas bonnes.
C'est arrivé avec une entreprise qui a sciemment exporté
oui,
des poulets contaminés par la grippe aviaire.
C'est une exception.
Nous, on est prêt à faire n'importe quel commerce pourvu qu'on arrive à sauver nos entreprises. Je veux dire, dans une politique actuellement difficile de concurrence mondiale, personne ici ne va attaquer les gens qui essayent d'exporter en Afrique. C'est donc au niveau des politiques, et non pas au niveau des entreprises, qu'il faut se battre. Pour dire, il y a une répartition des ressources, des richesses qui doivent être plus attentivement réglées. Alors je pensais à ça aujourd'hui en écoutant les différents stands, etc. Je crois que un des points clés, c'est que chacun d'entre nous devienne sensible à ce qui se passe là-bas. Et que pour ça, rien de tel qu'une petite assoce. Parce qu'on disait, il y avait un débat cet après-midi hein, sur grosses assoces politiques et grosses produits miniers. Alors, moi, je suis un homme qui me bat au niveau des politiques. Mais je sais qu'au niveau de ma conscience personnelle, c'est la relation personnelle que j'ai aujourd'hui avec Ibou, hier avec celui-ci, qui m'a formé. C'est pas les grands combats, CCFD, CFSI, etc., qui me forment. C'est la connaissance profonde de gens, de couples, d'autres gens comme moi là-bas. Et donc, moi, je n'oppose jamais l'idée de dire « Oh, il faut avoir... » J'entendais, il y avait une hôtesse de l'air tout à l'heure qui parlait, hein, en disant « Moi, j'ai vu des montagnes de blé ou de gris perdus, etc. » Oui, oui, et les États font parfois des conneries, et Kouchner aussi, mais ça n'empêche pas qu'on peut, d'une main, essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne en connaissant, à titre personnel, les gens là-bas, ce que, par exemple, vous faites, Chantal, vous, avec vos amis du Niger, mais avoir en même temps la conscience que rien ne changera si au niveau des politiques, ça ne change pas. Et je pense que cette prise de conscience politique, elle passe par une relation personnelle. Il faut que la politique qui fait mal à Ibou ou à Sissoko, je la vois comme une politique qui me fait mal à moi. Tant que je la vois comme... oui, d'une certaine façon. Et là, je pense que les petites assos sont irremplaçables. Parce que c'est seulement là qu'on a cette relation. Je ne dirais pas que c'est la relation d'aide qui est intéressante. Non, c'est la relation de connaissance mutuelle. De dire, on est du même bateau. Tu noir ou blanc, c'est tout kiff. Hein. Donc ça, c'est ce qui m'a... J'étais là-bas au fond quand on disait ça. Je crois qu'il ne faut pas opposer. Quoi. et d'autre part permettre l'aide au centre du débat. C'est, ce qui est au centre du débat, c'est les, d'autres types de politiques menées à la fois pour eux et pour nous, et donc négociées.
Je ne sais pas si, si les organisateurs veulent continuer, mais je crois que 23 jours, c'est pas mal déjà.
En tout cas, c'était un plaisir d'être parmi vous.
Pardon, encore moi. En fait, je n'ai pas de questions. Je voulais seulement me lever en faux contre ce qu'il a dit le confrère et que je dis très honnêtement, j'ai horreur d'entendre ça. Les Sénégalais aiment manger ce qui vient de l'Europe. C'est complètement faux, c'est aberrant. Les gens, comme l'a dit madame, on mange ce qu'on peut acheter. Voilà, c'est avec cette attitude qu'on vient faire des études en France et on retourne avec des mentalités françaises. C'est complètement, je me lève en faux et je dis c'est complètement aberrant de dire les Sénégalais ou autres, vous avez dit Sénégalais, donc je répète Sénégalais, ou autres, et manger ce qui vient de l'étranger. C'est complètement faux, c'est aberrant. On mange et on achète ce qu'on peut acheter. C'est tout. C'est pas parce que ça vient de là-bas, c'est blanc ou jaune ou vert. On peut ou on peut pas. Voilà, merci.
Je poursuis tout de suite.
Oui, allez. Bon.
Bertrand, parce qu'il faut donner son prénom. Juste pour boucler sur le poulet, il y a le cas du poulet entier, du poulet vélo, effectivement, et le poulet, comme vous l'avez dit, que l'on envoie, qui est plus ou moins bien conservé, ou en fin de date de limitation, qui est encore dans les temps, mais qui est déjà ultime. Et puis après, il y a les ailerons de poulet qu'on envoie. Il y a les parties qui ne nous intéressent pas qu'on envoie. Et ce qui fait qu'elles sont pas chères, parce que simplement nous, on ne les veut pas, ça n'a pas de valeur marchande, on ne gagne rien dessus. On ne gagne pas sur ces parties-là. Seulement, on ne perd pas, on entretient et on casse un marché. Juste pour donner ensuite la partie politique et rebondir un tout petit peu, savez-vous que la France a été condamnée parce qu'elle vendait du sucre à l'Afrique. Ce sucre était fait à partir de betteraves et l'Europe a condamné la France à réduire de 30% en 2006 sa production betteravière. Betterave qui était produite avec l'aide de la PAC, politique agricole commune, financée par l'Europe, envoyée aux Africains et revendue, et on a été condamné. Et c'est pour cela que vous allez de l'agrocarburant qui va arriver dans nos réservoirs français qui ont été lancés sous Chirac, qui n'a pas mis un centime. 6 usines sont en production en France actuellement parce que la filière de betteravier ne peuvent pas s'en tirer, ne peuvent rien faire d'autre que de la betterave. Ils vont faire dans la pire solution du carburant diester, dans la pire solution par la betterave humide, mouillée, qu'il faut sécher, traiter, en labo, passer, etc., torréfier, re-ramener, etc., etc., énergie pour en mettre. Peut-être, si l'Europe l'accepte, dans nos carburants. Mais en tout cas, le sucre venait bien de la France, financé par l'Europe.
Il n'y a pas d'autres questions? Donc, on peut...
Oui, je pense qu'on est quand même servi par le temps.
Oui.
Je vous donne un peu 5 minutes pour terminer, parce qu'on a quand même un programme à respecter.
C'est ça. Donc, je vais essayer un peu d'intervenir. Après, je donne... Je laisserai le soin à Bernard de conclure le débat, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc, pour revenir un peu à ce que mon frère et ami Kakou a dit, je pense que peut-être Kakou, on ne s'est pas très bien compris. Quand on parle de préfère, je ne parle pas de préférence par rapport parce qu'on est faible, parce qu'on préfère les produits européens. Quand je parle de préférence, c'est par rapport à l'accessibilité financière. Peut-être on ne s'est pas très très bien compris. Moi, je suis un Africain comme toi. Je suis sûr et certain... Peut-être je ne vais pas m'aventurer à ça. Je suis très conservateur et peut-être je vais fermer la fenêtre par rapport à ça. Donc quand je parle d'accessibilité, les Africains préfèrent, pour répondre à la question d'Albert, acheter les produits d'ailleurs, ce préfère-là, ça a un contenu économique. C'est préfère parce que c'est moins cher, comme tu l'as dit. Donc on est sur la même longueur d'onde. N'est-ce pas? C'est l'accessibilité financière qui compte. On préfère quelque chose parce que si vous avez fait, je pense que à 30 ans de parler, tu as un peu des notions sur le marketing. Les gens, c'est ce qu'on appelle en marketing peut-être la politique commerciale. On adhère à un produit, à cause de son prix 1. On adhère à un produit à cause des préférences qui sont peut-être individuelles, psychologiques ou autres. Mais moi, mon propos, c'est je parle de préférences économiques. Je suis un économiste, n'est-ce pas? Je suis en train de faire des études économiques. Je pense que quand je parle des Africains qui préfèrent acheter des produits européens ou d'ailleurs que leurs produits eux-mêmes, dans ce préfère-là, il y a l'aspect économique. Ce préfère est teinté un peu d'aspect économique. Je pense que si je ne m'étais pas fait comprendre, je m'excuse. Parce qu'il n'y a pas lieu de se chauffer, parce qu'on est là pour échanger. Et tu n'es pas, je suis sûr et certain, plus africain que moi. Et tu n'aimes pas beaucoup plus l'Afrique que moi. N'est-ce pas? Et par rapport à la dernière question, je ne pense pas que... si Bernard a des questions, des réponses par rapport à Bertrand, par rapport au sucre, et après tu vas conclure. Mais je pense que c'était ça, c'était beaucoup plus une intervention qu'une question. Et vraiment, je voudrais, avant de passer la parole à Bernard, vous remercier de votre présence. Parce qu'au début, moi, je me disais, j'allais même voir M. Thiam pour lui dire, est-ce que pendant la conférence, on aura 10 personnes? Mais j'ai été complètement surpris quand vous avez pris votre initiative pour venir vous asseoir et nous écouter pendant ne serait-ce qu'une heure de temps. Et je suis sûr et certain, parce que moi je suis un grand psychologue, entre guillemets, je ne suis pas plus qualifié que vous. Chacun dans son domaine, en vous regardant, parce que quand on a de la patience en général, derrière cette patience-là, il y a quelque chose. Je suis sûr et certain, vous êtes tous ceux qui sont ici, qui ont écouté le message, qui ont participé au débat, ou bien, parce que participer, ce n'est pas seulement parler. Parce qu'à voir les visages, à voir les yeux, il y a des gens qui ont participé sans parler. Et ça me fait vraiment grand plaisir et ça m'encourage dans mes recherches parce que je suis un étudiant, je vous l'ai dit. J'ai la chance de travailler 7 ans en Afrique ou 8 ans même et j'ai une bourse de la Fondation Ford qui me permet de venir en France, continuer mes études. Et dans 2 ans, je vais rentrer au Sénégal pour continuer mon travail, mon lutte de tous les jours à travers l'unification des peuples, la solidarité internationale. Je vous remercie.
J'espère simplement que ce coup de courage que tu as pris ce soir va se révéler demain par un formidable travail au sein du GRAD. Merci beaucoup, Ibou.
Voilà, donc, le 8 juin, à Annemasse, il y a une conférence par Stéphanie hein, qui va vous parler alors de son combat pour le paysan et la souveraineté alimentaire.
Bon, merci beaucoup, Bernard.
Je vous en prie, monsieur.
Alors, pour terminer, un bon Africain, je vais dire ceci. Un bon Africain qui se respecte, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin de soutien. Et pour terminer, nous, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Nous, Africains, nous devons demander à nos dirigeants d'arrêter de mendier à l'extérieur. La Banque mondiale, le FMI, aucun pays du monde, citez-moi un pays au monde qui s'est développé par rapport à la Banque mondiale et les FMI, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parle que l'Afrique est indépendante, l'Afrique n'est jamais indépendante. On nous a donné une indépendance, on dit, bon, voilà, prenez parce que vous en voulez, allez, allez-y. Mais aujourd'hui, dites-moi, ça va faire bientôt 50 ans aujourd'hui, que soi-disant l'Afrique est indépendante, combien des écoles ils ont construites? Combien des hôpitaux ils ont construits? Alors, chers frères, notre combat, c'est quoi? Ces dirigeants-là, les mendiants, allez, il faut les aiguiller, il faut les mettre à l'intérieur. Merci beaucoup, au revoir, à tout à l'heure.